Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode de la rubrique Dans le processus créatif 2, je vous propose de plonger dans le processus créatif de Camille Brissot, une autrice jeunesse que j'adore et qui a gentiment accepté de vous partager son processus à elle, son histoire à elle et son parcours en tant qu'auteur, en tant qu'artiste et aussi en tant que femme. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir, comme à chaque fois, à découvrir l'auteur derrière la femme que je connaissais un petit peu déjà. Je vous laisse tout de suite avec notre échange et je vous retrouve juste après. Bienvenue en tout cas sur le podcast Écrire sans rature. Tu fais partie de ces premiers invités, donc je suis hyper contente. Ça fait très longtemps qu'on se parle un peu sur Instagram quand même. Et ça fait hyper longtemps que je voulais te demander. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. Et ma pauvre légitimité, venue t'aborder. Donc je suis hyper contente, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation.
Bah, merci à toi et merci d'avoir eu le courage de venir m'aborder, car ça me fait très plaisir aussi.
Il m'en a fallu. Est-ce que tu pourrais commencer simplement par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je sais que dans mon cercle, il y en a qui ne te connaissent pas du tout.
Mais comment ça? Pas de souci. Donc moi, je suis Camille Brissot. Je suis autrice de romans principalement jeunesse et jeunes adultes. Ça fait une quinzaine d'années, je crois, que j'écris. J'ai publié mon premier roman en 2005. Ouais, 2005, je crois que c'est ça. Ça fait très, très peur quand je y pense. Ouais, c'est ça, 15 ans cette année. Et voilà, donc je publie mes petits bouquins de mon côté à un rythme normal.
Un rythme normal, pas un rythme
de grosse bosseuse. Voilà, je suis plutôt cool dans ma manière d'écrire. Je ne sais pas ce que je pourrais te dire d'autre. Je vis à Paris et je ne fais pas qu'écrire. J'ai un autre métier à côté.
Ok. Je crois que tu as commencé à écrire très très jeune. Je crois que c'est ce que tu avais dit. Est-ce que aujourd'hui, adulte, tu sais ce qui t'a poussé quand tu étais vraiment petite à l'époque à inventer des histoires et plus tard à continuer à écrire en fait?
C'est une bonne question. Je pense que ça vient de plein de choses. Ça vient du fait que très jeune, j'ai tout de suite aimé lire. Mes parents me racontent souvent que quand j'ai commencé à savoir lire, c'était comme si le monde s'ouvrait devant moi. J'ai aucun souvenir de ça, hein, mais je pense que ce qui me plaisait là-dedans, c'était vraiment l'idée de raconter, d'avoir l'impression de vivre une histoire. C'est quelque chose qui m'a vraiment toujours plu, et je pense qu'il y a un petit côté, enfin un petit lien naturel entre aimer lire des histoires et aimer les raconter. Et du coup, très vite, je commençais à vouloir écrire les miennes. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose qui jouait un petit peu dans la balance, c'est qu'à l'époque, moi, j'adorais lire des histoires de fantasy, mais en jeunesse, il n'y en avait pas encore beaucoup quand j'étais plus jeune. Et je trouvais qu'elles avaient tout un côté qui ne me plaisait pas, notamment sur le rôle des femmes. Les personnages féminins étaient toujours vraiment inintéressants, très pot de fleurs. Et je pense que j'arrivais pas à m'identifier à ce que je lisais. Et que tout bêtement, à un moment, je me suis dit, je vais peut-être réfléchir à écrire, moi, les histoires qui me plaisent. Donc ça fait sûrement partie de l'équation. Et il y a un deuxième truc aussi tout bête, c'est que quand j'étais enfant, je me suis aperçue que j'avais du mal à m'exprimer. Je n'arrivais pas à faire passer des émotions, des sentiments, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en écrivant, il y avait un côté magique là derrière, qu'on arrivait à se débarrasser parfois de choses pesantes et à transformer ses poids en autre chose. Et je pense que ça m'a beaucoup plu. Alors, c'est un exemple très con que je dis souvent, que j'utilise souvent quand je rencontre des classes d'enfants, c'est que j'avais du mal, par exemple, à dire à des amis qu'elles m'avaient gonflé ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait un truc très jubilatoire, c'est que quand quelqu'un m'avait vraiment, vraiment énervé et que je l'avais dans le pif, il me suffisait de lui créer un personnage dans une histoire que j'étais en train d'écrire et de lui faire la mort la plus affreuse possible.
C'est génial.
Voilà, donc j'ai beaucoup d'amis qui sont morts sous des chevaux en délire, écrasés, avec des flèches dans le ventre, enfin des trucs vraiment affreux. Et que je me suis rendu compte qu'en fait, tout bêtement, c'était vraiment thérapeutique, quoi. Tu règles le problème avec ce personnage-là et après, ta colère ou ta tristesse n'est plus là, quoi.
Donc il y avait un côté. L'art-thérapie vraiment, par la mort.
Un petit peu, c'est ça, c'est un peu glauque, hein. Alors maintenant, je n'ai plus besoin de le faire. J'arrive à dire à mes amis quand ils me saoulent, j'ai plus besoin de les tuer dans d'affreuses souffrances, mais j'ai trouvé que c'était, voilà, il y avait un petit côté magique qui me plaisait vraiment, et je pense que ça a commencé comme ça. Et après, tout bêtement, je me suis un petit peu accrochée, j'ai découvert que j'aimais bien faire ça, j'ai découvert que ma plume, enfin que ça, je la voyais s'améliorer sous mes yeux, et du coup c'était aussi très gratifiant. Puis au bout d'un moment, c'est devenu une habitude de vie presque.
Ouais. Et tu disais, je rebondis sur le fait que tu étais, et je suppose que tu es encore une grande lectrice à côté de l'écriture. Est-ce que tu penses que la lecture a vraiment impacté l'écrivain que tu étais et que tu deviens, en fait, chaque jour ?
Ouais, c'est sûr que tout ce que j'ai lu a forcément eu un impact sur ce que j'ai écrit. Je le vois avec des trucs tout bêtes, comme le fait que, en tant que lectrice, j'ai pas de genre de prédilection. J'aime vraiment lire des trucs hyper variés. Dans le genre fiction, je suis un petit peu moins sur les essais, les trucs comme ça, mais policier, fantastique, science-fiction, roman contemporain, franchement je mange à tous les râteliers. Et je vois que côté écrivain c'est pareil, j'aime pas du tout cantonner un genre particulier. Alors bon, évidemment j'ai quand même un petit peu plus d'imaginaire, mais c'est vrai que j'aime bien passer par des histoires policières, j'aime bien mêler un peu d'humour, j'aime bien faire un petit peu un mélange des genres, ça me nourrit énormément. Et après je trouve qu'en termes de motivation, enfin, quelque part, j'ai plein d'amis écrivains qui me disent que depuis qu'ils écrivent, ils n'ont plus le temps de lire. Je l'entends, mais je ne le comprends pas, moi, personnellement, parce que je trouve que...
T'en as besoin.
Ouais, c'est presque le seul métier de l'écrivain, à part écrire, c'est lire aussi, parce que c'est ça qui t'amène à te remettre en question, à savoir toi ce qui te plaît, toi ce qui ne te plaît pas, et surtout à mettre un petit peu des espèces de modèles que t'as envie d'atteindre. Moi, les plus grands moments de motivation dans ma vie d'écrivain, je les ai eus en tant que lectrice, quand j'ai lu un bouquin, je me suis dit, merde, c'est celui-là que j'aurais voulu écrire. Et en fait, je trouve que ça te bloque pas. Tu dis pas, c'est bon, il est foutu, je l'ai pas écrit, donc autant arrêter. Au contraire, je trouve que ça te motive pour aller encore plus loin et vraiment franchir une étape dans ton écriture. Donc c'est clair que pour moi, c'est essentiel.
Je suis complètement d'accord avec toi. C'est marrant, on a eu encore une discussion sur le podcast avec un autre invité qui était complètement dans ce sens-là aussi. Ouais. Donc c'est marrant, je pense qu'on se retrouve beaucoup, beaucoup là-dedans. Ça.
Alors après, peut-être qu'il y a des auteurs aussi qui ont la peur de pas arriver à gérer la frontière entre ce qu'ils écrivent et ce qu'ils lisent. Et ça, c'est vrai, moi je sais que ça m'arrivait un petit peu plus dans mes débuts d'auteur. Et c'est plus du tout le cas. Maintenant, j'arrive à vraiment isoler. Je fais attention aussi, peut-être, quand j'écris une histoire, à ne pas lire quelque chose de trop proche. Mais en tout cas, il faut absolument que je continue à lire quand j'écris. Sinon, je trouve que tout est un peu plus pauvre, quoi.
C'est marrant. Tu dis que tu lis pas, en général, quelque chose de trop proche de ce que tu es en train d'écrire.
Ouais.
Et moi, j'ai eu quelque chose de complètement inverse. Quand j'ai commencé mon dernier roman, je me suis dit... tu vois, je me suis mise à lire Delphine de Vigan alors que clairement c'était pas du tout un livre que je devais lire à ce moment-là, hein. Émotionnellement je pense que j'étais pas prête, et en fait ça se rapproche, enfin c'est quand même, tu vois, une histoire de vie, de famille et tout, et qui se rapproche quand même vachement du style j'ai pas le style de Delphine de Vigan, tu vois, mais du style de roman que je suis en train d'écrire. Donc c'est marrant, tu vois, moi je me suis plongée dans l'inverse.
Et justement ça a fonctionné, ça t'a plu?
Je trouve que ça m'a... En fait, ça m'a permis de me dire que c'était OK d'écrire un livre qui était, basé sur une famille, basé sur juste une vie, en fait, et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir 40 000 péripéties dedans pour que, en fait, ça ait du corps et que ça existe. Ouais. Je pense que ça m'a un peu rassurée, quelque part.
Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment intéressant, parce que je pense qu'au final, il n'y a pas de règle toute faite. Déjà, rien n'est applicable d'un écrivain à l'autre. Et même, même sur un même écrivain, je pense qu'on va avoir, des règles qui marchent à un temps T et qui ne marchent plus l'année suivante. Donc, c'est intéressant de toujours se sentir, en tout cas, légitime à tenter des trucs. Et si ça marche, très bien. Sinon, tant pis.
Il faut tester.
Exactement.
Donc toi, du coup, t'as été publiée la première fois, c'était quand t'étais au lycée, du coup, c'est ça ?
Ouais, j'étais en première.
Ah, oh, dis donc.
c'est bizarre, parce que ça me paraît loin. J'ai l'impression que cette Camille-là, que je la connais presque plus. Mais je pense que quand t'es ado, t'as peur de rien, en fait. Tu vois pas les obstacles de la même manière. Donc, voilà, moi, ça me faisait pas peur. Et je me dis que maintenant, ce que j'ai fait à l'époque pour être publiée... ce que j'ai honteusement démarché des auteurs pour qu'ils me lisent mes bouquins en espérant qu'ils pourraient me pistonner derrière.
Et ce qui a marché, apparemment. Des échanges avec Pierre Bottero.
Ouais, ça a été très efficace. Mais maintenant, je n'oserais plus, j'aurais trop honte. Mais à l'époque, voilà, tu ne te poses pas autant de questions et du coup, tu avances beaucoup plus.
Du coup, quand pour ce premier livre, tu avais en gros, entre gros guillemets, tenté ta chance, ou est-ce que vraiment tu avais une ambition éditoriale derrière
Mais bien sûr que j'avais une ambition. J'avais une ambition, mais démesurée. Ça aussi, c'est quand t'es jeune, du coup, je pense que c'est facile de prendre la grosse tête. Et c'était sans doute dû à mon âge aussi, parce qu'encore une fois, tu te poses pas de questions, tu te dis que tu vas tenter quelque chose et que ça va forcément marcher, parce que le monde n'attend que ton œuvre. Et du coup, en fait, c'était le premier bouquin que j'ai publié, c'était pas le premier bouquin que j'ai écrit, c'était le deuxième. Et le premier que j'avais écrit, en fait, c'était... quand je dis le premier, je parle du premier que je suis arrivée à terminer.
Ouais,
on le connaît tous, hein, il est important. Et ce premier-là, en fait, c'était un plagiat, au final, assez honteux du Seigneur des Anneaux que je venais de lire, que j'avais adoré, qui avait changé ma vie de lectrice. Et je m'étais dit, en toute modestie adolescente, je vais écrire le Seigneur des Anneaux en mieux. Évidemment, je l'ai écrit en pire, parce que voilà, ouais, normal. Et j'avais déjà beaucoup d'ambition sur celui-là. Enfin, j'étais persuadée d'avoir écrit un truc super. Et j'avais fait la connerie de le faire lire à des amis qui n'étaient pas des grands lecteurs et qui sûrement voulaient juste me faire plaisir. Voilà. Donc, ils m'avaient tous dit que le bouquin était génial. Donc, ça ne m'avait pas aidée. Et je l'avais envoyé, je pense, à 10-12 éditeurs. Hein, et là, j'avais établi sur les meilleurs. J'avais Gallimard, Flammarion, j'avais pris la top list et j'avais inondé tout le monde. Et évidemment, je me suis pris des lettres de refus, vraiment beaucoup, beaucoup, qui m'ont fait un petit peu redescendre. Et c'est à ce moment-là, en fait, les lettres, elles ont mis un temps fou, évidemment, à arriver. On connaît le processus. Je pense que j'ai eu la première au bout de 6 mois.
Ouais.
Et j'ai peut-être même dû en recevoir après des années plus tard, quoi, qui s'étaient perdues en route. Et le fait, en fait, je trouve que c'était pas mal. Par contre, le fait que les maisons d'édition soient si lentes à lire, c'était que quand j'ai reçu toutes ces lettres, en fait, ça m'a permis de... J'étais vraiment sortie du bouquin, j'avais quitté le bouquin, j'avais fini d'écrire, donc je m'en étais un petit peu éloignée. Et j'ai pu, à ce moment-là, le relire pour voir si vraiment... Je me demandais si c'était vraiment les maisons d'édition qui passaient à côté de quelque chose parce que ils n'avaient pas su voir mon talent, ou si c'était moi le problème. Et en fait, en le relisant, là, je me suis aperçue que voilà, c'était pas du tout abouti, que c'était clairement une espèce de fanfiction très, très adolescente. Ouais, j'avais gagné un petit peu de recul. Alors, c'était pas énorme à l'époque, mais c'était déjà un petit peu. Et du coup, je m'étais dit que j'allais commencer à écrire un deuxième bouquin et que cette fois, j'allais pas vouloir écrire quelque chose qui ressemble à quelque chose que j'avais aimé et que j'allais pas partir non plus sur une histoire de 500 000 signes en 4 tomes, mais j'allais faire un bouquin plus simple et que cette fois, il me fallait des vrais lecteurs. Et quand j'ai pensé vrai lecteur, en fait, pour moi, je me disais que c'était pas forcément les lecteurs que j'avais envie. Je voulais quelqu'un de professionnel. En fait, j'avais déjà cette idée de professionnel. Et ben, un professionnel de l'écriture, c'est un écrivain. Donc, j'ai commencé à arroser de manière pas du tout discrète tous les auteurs que je connaissais, que j'étais en train de lire. Je leur envoyais des messages en disant « Bonjour, je vous adore, PS, est-ce que vous accepteriez de relire mon bouquin ?»
Incroyable.
Et ça a pas marché sur tous, mais ça a marché avec Pierre Bottero que j'ai réussi à convaincre de lire mon bouquin, et il a accepté de lire au début un chapitre en devant se dire bon, je vais être sympa, mais je veux pas trop m'avancer. Et en fait, il a bien aimé, j'ai eu un coup de bol, il a accroché avec le texte et il l'a complètement relu et il m'a montré comment on corrigeait quand on était un écrivain un bouquin.
Génial.
Donc ça m'a permis de gagner un temps fou et de le publier du coup à peu près 2 ans plus tard.
Ok. Waouh, bah dis donc, c'est la première fois que j'entends cette démarche, mais je trouve ça tellement cool. En effet, je sais pas si j'aurais osé le faire, mais trop bien.
Ah non, mais moi j'oserais plus du tout. Et du coup, par contre, c'est vrai que le revers de la médaille, c'est que quand je reçois des enfants ou des ados qui m'envoient un message pour me demander de lire leur texte, je me sens un peu obligée de le faire. Je peux y aller.
Ouais, ça changera peut-être leur vie.
Voilà, on l'a fait pour moi, donc il faut que je le fasse un petit peu. Donc, j'ai un peu moins le temps maintenant, mais c'est vrai que j'essaie de on l'a fait pour moi, donc je trouve ça cool aussi de pouvoir rendre ce service à d'autres personnes.
Ouais. Et au niveau de l'édition, tu t'y étais pris, ta manière, de ton process et tout, est-ce que tu t'y étais pris pareil que la première fois ou est-ce que tu n'avais pas inondé Gallimard Jeunesse?
Non, j'étais un petit peu plus rationnelle. Alors déjà, je me disais, je ne vais pas renvoyer à ceux à qui j'ai déjà envoyé mon premier texte que j'avais une peur bleue.
Ils vont
revoir mon nom. Qu'ils s'en rappellent que je sois sur une blacklist des pires trucs qu'ils aient reçus, un truc comme ça. Et en fait, ça s'est fait un petit peu plus naturellement celui-là. C'est que tout simplement Pierre, qui était publié chez Rajo à ce moment-là, m'a dit, écoute, moi, je l'aime bien, ton bouquin, donc on l'a bien retravaillé. Donc, si tu veux, je te propose de te donner l'adresse de mon éditrice et tu le fais passer le roman là-bas. Et en fait, du coup, j'étais trop contente. C'était, je pense, le meilleur moment de ma vie. Donc, j'ai pas testé d'autres éditeurs à ce moment-là. Je l'ai juste envoyé à Rajo. Et j'ai eu la surprise d'avoir un retour par téléphone de l'éditrice qui me l'acceptait pas, elle me l'a refusé une première fois parce qu'il y avait encore plein de défauts, mais elle m'a fait un cadeau énorme, c'est qu'elle m'a listé tous ses défauts. Et elle l'a listé. Et après, ouais, elle m'a fait un récap complet de tout ce qui allait pas. Après, elle me l'a envoyé par mail. Je m'en rappelle encore parce que ça faisait 5 pages. Donc, ça faisait très, très peur au début. Mais au final, en fait, c'était un mode d'emploi inversé de tout ce que je devais faire. Donc, c'était hyper précieux. J'ai retravaillé le bouquin exactement comme elle me le conseillait. Je lui ai renvoyé. Et là, elle m'a dit OK tout de suite.
Ouais. Donc, ça a été ça quand même assez simple. Le fait qu'elle t'ait donné, c'est quelque chose que tu n'avais pas du tout, je suppose. Enfin, même beaucoup jamais. Moins. Voilà, les éditeurs, ils prennent pas le temps et je pense qu'ils l'ont pas de toute façon de voilà faire ouais, un retour ça. À tout le monde. Mais ouais, c'est un gros cadeau du coup qui t'a fait parce que.
Bah, c'est un cadeau énorme et en plus, enfin, les éditeurs, non seulement ils ont pas le temps, mais il faut être honnête, tous les manuscrits ne le méritent pas. Clairement. Mon premier, il ne méritait pas qu'ils s'arrêtent pour m'expliquer ce qui allait pas. Il y avait trop en fait, donc ils auraient pas pu faire 100 pages de commentaires quoi. Donc en fait, je pense que ça allait parce que déjà un, le manuscrit est collé avec leur ligne éditoriale, donc c'est déjà un petit peu plus simple. Ouais. Et puis et deux, ils avaient vu quelque chose quand même, une bonne base. Et il y avait du travail, mais c'était tout à fait faisable quoi.
Ouais. J'allais te demander, est-ce que quand t'as relu le texte en fait à la lumière de justement cette espèce de compte rendu qu'elle t'avait fait pour voir tous les défauts, est-ce que honnêtement toi tu les as vus? Parce que c'est un vrai truc qui m'est arrivé et en fait quand j'ai eu les retours, quand j'ai relu mon texte que pourtant j'en étais à la V8 hein, tu vois, donc quand je l'ai relu j'ai fait mais oui. Enfin, c'est évident, en fait.
Ouais. Bah, bien sûr, mais en même temps, c'est normal quand t'es dessus, enfin, t'es dedans, en fait, tu peux pas sortir, t'as aucun recul, tu peux pas savoir vraiment ce qu'il vaut. Et du coup, le regard de quelqu'un d'autre, alors ça peut être un éditeur, mais ça peut être aussi déjà un premier niveau, un bêta lecteur, quelque chose comme ça. Rien que ça, c'est hyper précieux parce que ça va te montrer des choses que toi, tu ne peux pas voir seul, sauf si tu as le temps avec toi et que tu acceptes de le laisser de côté pendant un an, t'y replonger après quand tu l'auras un petit peu oublié, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment hyper précieux.
Ouais. Tu disais tout à l'heure que l'écriture, c'était pas ton travail à plein temps. Et moi qui te suis, j'ai un peu suivi ça. Tu bosses dans la communication, c'est ça?
Ouais, je bosse dans la com interne, dans une boîte pharma, donc qui a aucun rapport, en apparence avec l'écriture, mais dans les faits, la com interne, c'est de l'écriture aussi. Et c'est assez récent. Avant, je travaillais dans une boîte automobile, donc j'aime bien faire tous les secteurs qui ont aucun rapport avec l'écriture.
Ouais, mais je t'avoue que ça me parle pas mal.
Ouais. C'est marrant. Après, c'est pas mal aussi, je trouve, de mettre des frontières nettes entre tes activités. Parce que voilà, c'est un petit peu plus varié. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien.
Quelle relation, du coup, t'entretiens entre ce métier-là, qui n'a rien à voir, du coup, et ton deuxième métier d'écrivain? Parce qu'avec tout ce que tu publies aujourd'hui, c'est quand même ton métier d'écrire.
Ouais, exactement. Je considère vraiment que j'ai deux métiers qui me nourrissent pas sur un pied d'égalité. Quand je dis nourrir, c'est à la fois en termes financiers, bien sûr, mais pas que, parce que je trouve aussi que écrire, c'est quand même un engagement énorme. Et je pense qu'il y a des cycles qui fait que, enfin, moi, je ne pourrais pas faire que ça tout le temps. C'est quelque chose de très solitaire. T'es seul face à toi-même et à ton écran, et tu dois alterner entre des phases justement d'extrême solitude où t'écris, t'es tout seul et t'as un rythme en plus qui est, enfin, moi, dans mes amis, dans mon entourage, c'est pas du tout un rythme qui a quelque chose en commun avec ce que les autres ont. Donc, il faut être ok pour être seul et seul avec soi-même et savoir se supporter. Savoir se discipliner aussi. Moi, je sais que c'est pas mon grand point fort. J'ai du mal à m'imposer des cadences de travail fortes comme ça. Et en même temps, donc je te disais des cycles de solitude et de travail. Et puis après, t'alternes avec des cycles d'extrême sociabilité un petit peu imposée. Quand le roman sort et que tu dois faire la promotion, que tu dois faire des rencontres scolaires, des déplacements. Et là, tu passes vraiment d'un tout à l'autre, quoi. Tu passes de être seul chez toi pendant des semaines à être tous les week-ends sur la route et pas avec ta famille, pas avec tes amis, rien. Ouais. Donc, c'est un équilibre qui est particulier. Moi, je trouve que en le gérant à petits bouts, ça va, mais je pourrais pas faire que ça pendant toute ma carrière.
Donc pour toi, avoir quand même un boulot à côté, pour toi, c'est pas alimentaire, c'est essentiel à ton équilibre.
C'est pas du tout alimentaire, ça m'apporte d'autres choses, ça me permet de développer d'autres compétences, où au final, que je pourrais pas du tout développer si je faisais qu'écrire, parce que c'est quand même un petit peu plus monotache, même si on peut tout à fait développer plein de choses autour, mais j'aurais pas autant d'opportunités, donc pour moi, c'est hyper intéressant. Après, c'est vrai que l'équilibre, il n'est pas toujours facile à trouver entre deux jobs, hein, mais c'est comme, pour n'importe qui a deux jobs, je pense, entre l'un et l'autre. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Il y a des moments où tu te fais un peu bouffer par l'un ou par l'autre. Moi, évidemment, c'est mon job principal qui prend, enfin qui passe avant. Et ce qui est compliqué, je trouve, avec l'écriture, c'est que si tu perds une certaine régularité, c'est plus compliqué de t'y remettre.
Ouais, c'est clair, c'est clair.
Donc voilà, ça, cet équilibre, il est pas toujours facile à avoir.
Mais du coup, dans cette veine, comment tu t'organises toi pour arriver à écrire, à sortir bah, autant de livres, parce que t'en as quand même sorti, publié pas mal, alors que tu travailles à côté. C'est-à-dire que moi, c'est clairement une question, je vais te dire, qui revient beaucoup, ne serait-ce que pour moi, alors que je suis à mon compte. Donc je suppose que, en plus, quand tu es salarié, enfin, je l'ai vécu aussi, mais je pense beaucoup moins longtemps que toi. Donc comment tu arrives à faire la part des choses entre les deux ?
Alors là aussi, j'ai pas la même réponse en fonction de toutes les cycles que je traverse dans ma vie professionnelle. Alors pendant des années, j'étais étudiante. Donc tant que j'étais étudiante, c'était génial parce que en fait, t'as un rythme de travail. Tu t'en rends pas compte quand t'es étudiant, mais au final, t'écris déjà. Enfin, t'as l'esprit qui est très stimulé. T'es déjà presque dans un bon état d'esprit pour écrire. Donc j'écrivais pas mal à ce moment-là. Et après, quand j'ai fait mon premier job dans l'automobile, j'y suis restée 7 ans, et j'ai très vite réussi à avoir un temps partiel. Donc j'avais une journée par semaine où je faisais qu'écrire. Donc j'avais réussi à faire en sorte que ça cale. Alors ça ne veut pas dire que j'écrivais que cette journée. Enfin, je passais beaucoup de temps à préparer mes bouquins pendant cette journée, et j'écrivais par petits bouts à d'autres moments. Mais j'avais quand même une régularité qui était pas si mal. Et là, ça fait 2 ans que j'ai changé, où je suis à 100% sur mon autre job. Donc là, c'est un autre genre de galère. On va dire que c'est un management par la terreur de la deadline. Donc, je fais pas grand-chose. Et puis, d'un coup, j'ai une deadline qui tombe et je me mets à me lever plus tôt le matin, à me coucher plus tard le soir pendant 2 mois. Ouais. C'est un petit peu mon fonctionnement. C'est pas idéal pour le moment.
Dans l'urgence.
J'aimerais bien, arriver à avoir quelque chose d'un petit peu plus sain à l'avenir. Mais pour l'instant, je fonctionne comme ça. Et je me suis aperçue aussi que ça change ce que j'écris. Puisque là, avec le temps que j'ai, en fait, je peux plus me plonger dans des romans ados de 400 pages comme je le faisais avant. Donc là, je me focalise sur des projets un petit peu plus courts.
Ok. C'est intéressant, ça veut dire, est-ce que tu crois, j'étais en train de penser à ça parce que tu dis que tu avais une journée pour écrire avant en temps partiel et du coup tu étais un peu cantonné à ça, est-ce que tu crois que c'est intéressant dans le processus créatif de se dire, bah en fait on a un temps donné, un temps imparti et il faut clairement, tu vois, en tirer le meilleur quoi.
Alors ouais, c'est assez pratique parce que tu sais que tu l'as, c'est comme une petite poche d'oxygène. Ouais. Après, ça peut être aussi un petit peu culpabilisant. Parce que quand t'es comme moi et que t'as aucune discipline, je me rendais compte que dans la semaine, je voulais écrire. Mon jour off, c'était le vendredi. Donc dans la semaine, je voulais écrire, mais je me disais, ah mais non, ça c'est bon, j'aurai tout le vendredi pour faire. Et arrivé au vendredi, je me disais, bah, t'as rien foutu la semaine. En fait. Là, il faut t'y mettre. Et du coup, je me sentais quand même très vite coupable si jamais j'avais pas écrit pendant cette journée.
Ouais, il m'a fallu une sorte de pression.
Ouais, il m'a fallu un petit peu de temps pour me dire, bon, bah, c'est bon, c'est pas grave si j'écris pas ce vendredi-là, quoi.
Ouais. Et toi, t'as toujours été parisienne du coup ou pas du tout ?
Ah non, pas du tout. Moi, je viens de la Drôme. Je suis née dans un petit bled qui s'appelle Romans.
C'était incroyable comme histoire.
C'est pas une blague. Je sais pas parce que sinon, ça voudrait dire que tous les habitants de Romans devraient aussi faire un bouquin. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais... en tout cas, ça me fait bien marrer. Puis surtout, c'est la seule anecdote, je trouve, intéressante que j'ai à raconter dans mes bios de livres. Donc, c'est toujours pas mal.
Toi, au moins, t'en as une.
J'en ai une parce que sinon, ça, c'est une belle galère aussi, écrire une bio de livre. Tu cherches des trucs à écrire sur ta vie. Il n'y en a pas des masses. Donc voilà. Et donc, ouais, j'ai grandi dans la Drôme, moi, plutôt à la campagne. J'ai fait mes études à Lyon. J'ai passé une année en Écosse, à Édimbourg. Et après, ça fait 8 ou 9 ans que je suis à Paris.
Ouais, t'es remontée au fur et à mesure. Je crois que t'avais dit que tu aimais bien les images de ces villes où il y avait une nature qui reprenait ses droits, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as exploité dans tes romans ?
Ouais, j'adore ça. C'est ma petite fascination pour tous les trucs post-apocalyptiques où les villes se retrouvent envahies de végétation, se cassent un petit peu la gueule. Ouais, je l'ai utilisé dans mon roman « Ceux des limbes », qui est une petite version perso du thème du zombie. Et le thème du zombie me sert juste à avoir ce genre de paysage-là. C'est quelque chose, je sais pas, j'ai toujours été très sensible à cette esthétique-là, du côté un petit peu retour au naturel, la fin de la civilisation et autres.
Oh ben on est proche, à mon avis, hein. Tu vas avoir de quoi faire.
Ouais, bah écoute, je sais pas, mais c'est un peu flippant, mais C'est, ouais.
Je me demande si les gens vont écrire sur cette période 2020 qui était vraiment bien de la merde.
C'est pas impossible. Hein.
Moi, je me suis demandé vraiment.
Déjà commencé.
Ouais, je me suis demandé si sur les sorties 2021, on allait avoir que des romans où les gens portent le masque et où, ouais, tu vois, ça allait être comme ça. J'espère
ouais,
pas.
En même temps, si jamais ils font des romans en mode confinement, ça va vite être chiant.
Ouais, c'est clair. Non, mais je suis sûre qu'il y en a, hein, de toute façon.
Mais oui, c'est sûr.
C'est sûr que ça va sortir.
C'est sûr, mais moi je me suis posé la question aussi, et en fait je me dis que c'est, enfin, ça m'intéresse pas d'écrire sur quelque chose qu'on a tous vécu.
Parce que tout le monde sait ce que c'est en fait.
Bah ouais, tu sais ce que c'est, donc pourquoi lire encore une tartine ?
Ça m'aurait intéressé d'écrire sur le confinement si j'avais écrit une sorte de thriller à huis clos, un peu comme
ça,
à couteau tiré, tu vois, un truc comme ça.
Ouais, voilà, si t'arrives à le twister un petit peu, ça peut être pas mal.
Je pense que je suis pas la seule à avoir eu cette idée, mais bon...
Ouais, ben, de toute façon, toutes les idées, on les a tous mille fois, hein, ça, s'il faut pas s'arrêter à ça, quoi.
Alors, d'ailleurs, j'ai une citation de toi que j'ai beaucoup aimée. Oui, parce que je te cite, tu vois. Non, en vrai, je sais que tu as souvent soutenu l'idée, et là, je vais carrément le lire parce que je vais jamais me souvenir que c'était vraiment très bien dit. Tu avais dit « Écrire, c'est pas juste se planter devant son ordinateur pour aligner des pages, c'est aussi respirer, engranger des idées, les laisser se mélanger, se transformer et grandir. » Et ceux qui écoutent souvent ce podcast savent que je partage carrément ce point de vue. CF l'épisode de je sais plus combien, 21, du podcast où j'en parlais, où je disais qu'il fallait arrêter de culpabiliser, qu'il y avait beaucoup de gens, moi, tu vois, qui m'écrivaient en mode « Ouais, en fait, j'ai pas écrit une ligne aujourd'hui. » Et en fait, c'était hyper triste parce qu'ils avaient fait plein d'autres choses qui avaient sûrement nourri le process, tu vois.
Mais c'est marrant, c'est aussi un petit peu le culte de la productivité de notre société. Si t'as rien fait de la journée, c'est une journée perdue. Alors qu'en fait, moi ça me manque parce que je m'aperçois qu'avec le téléphone, avec tout Internet, enfin qu'on a tout le temps les séries, en fait, ça nous bouffe tout ce temps dédié à la rêverie un petit peu, à l'ennui. Et je trouve que c'est ce temps-là qui, en plus, est le plus propice en termes d'inspiration. C'est de là que viennent les meilleures idées.
C'est nécessaire.
C'est hyper important, quoi. Donc, il faut laisser un peu notre petit cerveau souffler. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile de lutter contre cette culpabilité en se disant « Bon, j'ai pas avancé. » Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où il faut avancer. Mais... Enfin, une idée, elle apparaît pas. Un roman, il commence pas au moment où on commence à écrire, quoi. Si on n'a pas la base, on va se planter. Donc, ouais. C'est vrai qu'il faut savoir l'accepter.
Non, c'est clair. Et du coup, toi, est-ce que tu as un peu des routines, enfin des choses, tu vois, tu disais avant, tu avais en temps partiel, tu avais ce temps que tu essayais de te donner le vendredi. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as ces petites routines-là, des choses récurrentes qui rendent ton processus à toi plus facile à se mettre en place, justement ? Est-ce que, comment ça marche pour toi ? Est-ce que tu es plutôt un peu lente à te mettre dans ton texte ou est-ce que dès que tu t'y mets, ça vient comment ça se passe ?
Ça dépend en fait à chaque fois du temps que j'ai mis avant, enfin que j'ai passé sans écrire. Si j'ai écrit sur un rythme à peu près régulier, j'ai pas de souci pour m'y remettre.
La pause est difficile.
Ouais, c'est ça. Mais la pause, t'es rouillé quand tu recommences. C'est comme du sport, quoi. Si tu t'entraînes pas, t'as des courbatures.
C'est clair.
Et du coup, ce qui est marrant, c'est que je m'aperçois que quand j'étais plus jeune, j'avais aucun souci pour débuter une histoire dans n'importe quelle situation.
Oui,
je pouvais m'asseoir n'importe
fou.
Où. Il pouvait y avoir du bruit autour, j'en avais rien à faire, ça me gênait pas du tout. Je pourrais regarder un film et écrire en même temps. Mais maintenant, c'est plus du tout possible, mais vraiment pas. Donc, moi, mon seul truc qui marche pour moi à peu près, c'est de me mettre un casque sur la tête et de mettre une musique. Et en plus, c'est horrible. Je me dis, si quelqu'un m'écoutait, ce serait affreux pour lui parce que je me mets une musique en boucle, la même en boucle pendant des heures. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'au bout du moment où ton cerveau, quand il a repéré que c'était la même chose, ça fait comme une isolation, en fait. Ça te coupe et tu te retrouves à être vraiment coupé. Et moi, ça me permet de me concentrer, mais c'est vraiment mon seul petit truc. Et après, si quand je suis vraiment en galère, que je vois que j'arrive pas à rentrer dans la phase d'écriture, ça m'arrive souvent de passer à la main. Je trouve que c'est un petit peu plus instinctif d'écrire à la main avec un stylo plume sur un cahier, ouais, que sur l'ordinateur. On a très vite l'envie, enfin on voit la phrase qu'on vient d'écrire et c'est facile de la trouver nulle et de passer son temps à la corriger sans avancer.
Ouais. Donc, t'es plutôt une fille à carnet, du coup, on dirait ou...
J'en ai des milliers que je remplirai jamais de ma vie, mais voilà, je les collectionne. Je ne
sais
pas ce que ça
dit
de nous. Mais...
Ils sont trop beaux, ouais, pour pouvoir écrire dedans.
Bah, c'est ça, ouais. Ou alors, je sais pas toi comment tu fais, moi, à chaque fois, j'essaie d'être du coordonné, de me dire un nouveau projet égale un nouveau carnet.
C'est ça.
Et sauf qu'au bout de 3 pages, je mélange tout. Et du coup, le jour où je dois chercher une idée que j'ai eue des années avant, je suis obligée de tous les relire.
Eh bien, figure-toi que du coup, je suis passée à un truc qui est très pratique, qui s'appelle l'index, et que je n'avais jamais fait dans mes carnets.
Non, c'est pas bête.
Pour preuve en ex, c'est que l'index est à la fin du carnet. Donc, c'est-à-dire que la nana n'avait rien compris à la base. En fait, je me suis retrouvée sur ce roman-là avec 80 pages de notes prises un peu partout, dans plein d'endroits. Et à un moment, je savais, tu vois, que j'avais quelque chose d'écrit sur telle scène. Je savais que j'avais écrit des trucs, mais alors où ? Du coup, je me suis dit, ok, donc vas-y, je vais retrouver. Je sais à peu près que c'est là, tu parles, je savais pas du tout. Donc, j'ai dû relire l'intégralité des 80 pages de notes que j'avais. C'était quand même un petit peu long. Il y a des fois où je me suis dit, ça, c'est vraiment de la merde. Il y a des fois où je me suis dit, oh tiens, ça, c'est pas mal. Et du coup, je me suis obligée à créer un index avec, tu vois, des thématiques sur... alors, la mort de machin, c'est sur telle page, telle page, telle page.
Ah ouais, ouais, c'est une belle orga, ça.
Ah ouais, non, mais en fait, c'est plus possible. Hein. Donc voilà, je t'invite à faire c'est des ça. Index.
Et je te note cette idée. Et en même temps, je pense que moi, ça fonctionne aussi de me laisser quelques espaces de bordel. Parce que justement, quand je suis perdue et que je me suis retrouvée une fois à relire tous mes carnets, en fait, je suis tombée sur des idées que j'avais notées des années plus tôt, que j'aurais jamais retrouvées autrement, que j'avais oublié si tôt que je les avais eues. Et en fait, c'était pile ce qu'il me fallait pour le bouquet en cours. Sans le hasard, en fait, je les aurais jamais trouvées.
Donc, t'as besoin de cette relecture, en fait.
Écoute, besoin, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, quand on a une petite tâche un peu pénible qui nous tombe dessus, autant en tirer le meilleur parti, quoi.
Dans la veine de tout ça, là, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui ? Je suis un peu curieuse, mais en même temps, je prêche un peu pour ma paroisse. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de tout ce qui se construit autour de l'écriture, vu qu'avant, il n'y avait pas tout ça, tu vois ? Il n'y avait pas, il n'y avait pas les podcasts, mais il n'y avait même pas les contenus, les sites, les blogs, les écrivains étaient beaucoup moins accessibles, j'ai l'impression, qu'avant. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça ?
Moi, je trouve ça génial parce que je me revois ado en train d'essayer désespérément de chercher des infos sur l'écriture. Je me rappelle que j'essayais à l'époque de regarder les quelques blogs d'auteurs qu'il y avait, mais c'était des auteurs très... très parisien, très littérature générale qui moi me touchait moins à l'époque. Je me rappelle que je lisais le magazine Lire, en fait je trouvais ça hyper chiant, mais j'espérais désespérément y trouver des conseils, des choses comme ça. J'écumais un petit peu tout ce que j'avais sous la main et je trouvais pas vraiment je trouvais pas ce que je cherchais. Moi j'habitais en plus dans une campagne un petit peu éloignée, un endroit où il n'y avait pas de salon du livre, pas de trucs comme ça, donc j'avais pas la possibilité de rencontrer des auteurs. Je savais pas ce que c'était un auteur, je savais pas à quoi ça ressemblait. Et le moment où vraiment moi ça a changé, c'est que en fait je me suis inscrite sur un forum. C'était un forum qui n'était pas du tout fait pour l'écriture à la base. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée là-dessus, mais on était plein et on parlait d'écriture et on a commencé à s'échanger nos textes, à se corriger. Et en fait, j'ai eu l'impression de trouver une communauté que j'avais pas ailleurs, de pouvoir échanger avec des gens sur des sujets que j'aurais pas du tout pu échanger avec mes amis au collège, au lycée, avec ma famille. Enfin voilà, je me suis trouvé des interlocuteurs et du coup je trouve ça génial que ça soit démocratisé aujourd'hui et c'est hyper intéressant, quoi.
Ouais, est-ce que ça professionnalise aussi un peu le truc, tu vois, j'ai l'impression.
Ouais, ça, à la fois ça le professionnalise et puis ça donne aussi l'image, enfin ça montre qu'il y a une diversité des écrivains, des méthodes d'écriture et que on peut forcément y trouver quelque chose là-dedans, quoi, qu'il n'y a pas une méthode tout faite qui est à suivre pour tout le monde.
Bah écoute, tu prêches une convaincue là, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup trop de contenus qui te disent pour écrire un livre, en fait, il faut faire ça. Donc du coup, quand tu fais pas ça, tu fais quoi en fait ? T'écris pas de livre, tu vois ?
Mais ça, c'est assez marrant. Enfin, moi, j'en ai lu quelques-unes des méthodes livres. J'ai acheté des bouquins là, qui disent comment écrire le bouquin. Enfin, en fait, je trouve ça chiant. Moi, ça me donne pas envie d'écrire. Ça fait très, très travail scolaire. Donc moi, ça ne me parle pas du tout. Par contre, entendre des gens qui parlent de la manière dont eux fonctionnent, ça, je trouve beaucoup plus intéressant, quoi.
Je suis un peu dans le même truc. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu fais partie de la charte des auteurs.
Ouais.
Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, honnêtement, j'avais envie que tu nous parles un peu de ça. Quelles sont les actions pour toi, en tant qu'auteur amateur ou professionnel d'ailleurs, ou en tant que lecteur même, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses dans le bon sens ? Parce que, bon, sans parler du micmac administratif, etc.
Ouais, alors ça, le micmac administratif, j'ai la chance de pas y être beaucoup confrontée parce que c'est pas mon activité principale.
Ouais, c'est ça. Ouais.
J'ai la chance d'avoir un employeur derrière qui paye des cotisations sociales pour moi, qui déclare mes salaires, qui déclare ma retraite pour plus tard. Donc ça, je me dis tous les jours que c'est une bénédiction, que j'ai trop de chance. Et pour être honnête, c'est aussi une des raisons qui font que je suis bien contente de rester salariée parce que c'est vraiment un boulot affreux qui me fait pas du tout envie. Et pourtant, je suis pas spécialement une
freelance. C'est pas la meilleure partie
Ouais, c'est ça. Et la charte, c'est hyper important. Donc, moi, j'ai adhéré à la charte assez rapidement, parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une association qui rassemble plein d'auteurs de jeunesse, d'auteurs et d'illustrateurs de jeunesse, et qui a pour but, en fait, de marteler et de faire rentrer dans les esprits que être auteur, être écrivain, être illustrateur, c'est un métier. Et que quand on fait des choses pour un métier, ben, ça veut dire qu'on est payé, tout simplement. Donc, c'est une asso qui milite pour de meilleurs contrats avec les éditeurs, qui offre une assistance juridique aux auteurs qui en ont besoin, qui offre aussi une assistance dans tout ce qui est démarche administrative infernale dont on vient de parler, et qui est très connue pour avoir réussi à faire entrer dans les mœurs le fait que quand on rencontre des classes, quand on dédicace en salon, quand on fait des rencontres, on vient parler de notre œuvre, on passe le week-end très loin de chez nous, ben, en fait, c'est un job et il faut qu'on soit payé pour ça. Donc ça, c'est hyper important, parce que ça permet à plein d'auteurs jeunesse d'avoir quand même un complément important en termes de salaire et d'en vivre, tout simplement. Et c'est vraiment une asso qui est formidable par tout ce qu'elle a apporté. Et puis, c'est pas terminé. J'appartiens également à la Ligue des auteurs professionnels qui fonctionne un petit peu sur le même genre, mais elle est pas, elle se cantonne pas à la simple jeunesse. Elle a vraiment pour but de rassembler tous les auteurs, y compris les scénaristes, et du coup d'apporter encore plus de force dans nos revendications. Donc c'est hyper important, et je conseille vraiment à tous les jeunes auteurs de se tourner vers ce type d'association, parce qu'en fait, comme je le disais un peu plus tôt, on est tout seul quand on est écrivain, et en fait, quand on est tout seul, on peut pas négocier correctement, on peut pas avoir des conditions normales. Et donc là, il faut vraiment s'associer, il faut avoir le pouvoir du collectif pour faire bouger les choses.
Ouais. En plus, les réseaux sociaux ont vachement aidé sur, en tout cas ces dernières années-là, avec le paye ton auteur, etc. Donc en gros, quand on est lecteur ou auteur, mais quand on est auteur, c'est intéressant de se tourner vers ces structures. Et quand on est lecteur, en gros, si on veut soutenir, il n'y a que ça, quoi.
Bah, c'est ça. Après, voilà, un lecteur, je ne saurais pas quoi dire. Enfin, moi, je ne préfère pas enjoindre les lecteurs de soutenir les auteurs. Ils le font s'ils le souhaitent.
C'est encore très peu connu, si tu veux.
Ouais, c'est ça, c'est peu connu, à part peut-être se renseigner, écouter un petit peu, mais c'est vrai que quelque part, ça devrait pas être le travail des lecteurs de militer pour que leurs auteurs aient de meilleurs droits. Et c'est génial s'ils le font, c'est toujours un soutien dans les campagnes qu'on mène de reconnaissance. Mais c'est vrai que, voilà, dans un monde idéal, le lecteur devrait se contenter de lire et pas avoir à se battre pour son auteur. Et en même temps, c'est génial qu'il y ait cette solidarité-là, et on peut qu'espérer qu'elle se développe, parce que nous, auteurs, en fait, on est peu nombreux, on est dans notre coin, et tout seul, en fait, on a une voix qui n'est pas énorme, quoi.
C'est ça, c'est le collectif qui va sûrement faire gagner les auteurs et permettre aux livres de continuer à exister, quoi. Mais du coup, en parlant de livres, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier livre, Mystère Ami, qui est sorti, hier, je crois.
Ouais, le tome 2 est sorti hier, pile. Il doit être rentré.
Enfin, on est en octobre, à savoir,
Ouais, c'est ça, il est exactement le 9, 8. Il est sorti 9. Le 8, donc on doit être le 9. Le tome 1 est sorti, lui, en juin. Alors bon, dans une période compliquée, après post-confinement, il devait sortir en avril, donc il a été un peu repoussé. C'est un roman qui est pour les 8-12 ans, je crois. J'ai toujours du mal avec les âges. qui est dans une nouvelle collection qui a été lancée par Syros, l'un de mes éditeurs avec qui je travaille le plus, et qui a pour but d'apporter des romans qui sont dans plein de genres, mais qui soient marrants, avec de l'aventure, avec du mystère, des choses comme ça. Et donc moi, c'est une série qui se passe à Minuit, qui est la ville la plus hantée du monde. Il y a des fantômes de partout, elle est très connue pour ça. À Halloween, les visiteurs et les touristes affluent pour profiter des festivités. Et en fait, on suit les aventures d'un garçon qui s'appelle Victor, et qui a une particularité, c'est que lui, les fantômes, il les voit. Donc, lui, cette ville vraiment hantée, ben, il la voit complètement, et il s'en sert, enfin, il parle, il peut communiquer avec eux, et il s'en sert pour mener des enquêtes. Donc, c'est une série qui mélange du fantastique, du policier, de l'humour, de l'amitié, plein de trucs, et que je me suis beaucoup amusée à écrire.
Bah, écoute, je vais le mettre dans ma pile à lire, du coup, parce que ça me donne envie. Tu l'as bien vendu, dis donc. Du coup, pour celui qui est sorti en juin, t'as pas eu de promo ou quoi ? T'as pas fait ça en physique, je veux dire ?
Alors non, on n'a rien fait en physique. C'est compliqué. Je pense qu'on fera rien en physique avant des mois encore. Après, je trouve que les éditeurs, pour le coup, se sont plutôt bien adaptés. Bon, enfin, de toute façon, les sorties, tout ce qui était prévu pour avril, on a décalé parce que c'était pas possible. Ouais. Et là, on a fait des petites opérations, comme on a tous les auteurs qui sortaient des bouquins à cette période. Il y avait des QR codes glissés dans les bouquins dans lesquels on enregistrait des petites vidéos pour que les lecteurs puissent quand même avoir un petit mot de l'auteur. On fait tout ce qui est séminaire de lancement des bouquins, donc avant le lancement des livres, en amont, en fait, on peut être amené à rencontrer les libraires pour voilà, échanger avec eux, leur donner envie de lire le bouquin. Et ça, avant, c'était des choses qui se faisaient en présentiel. Et là, maintenant, bah, ça se fait plutôt en Zoom, comme tout le monde, quoi, en fait. Et ça marche très bien, au final.
Ouais, bah non, mais de toute façon, il y a des super outils digitaux et c'est clair qu'il faut les utiliser, hein. Mais,
ouais.
Non, c'est vrai que c'est pas de chance de, voilà, les sorties ont été un peu compliquées cette année.
Ouais, ça a été un peu compliqué. Et puis en même temps, il paraît qu'il y a eu quand même des vrais retours en librairie, que les gens ont eu envie de retourner acheter plein de bouquins après le confinement. Donc voilà, il y a eu aussi des bons côtés.
Bah là, je crois qu'il parle de, il parle de reconfiner strictement. Je pense qu'on va tous filer chez le libraire.
Ah ouais, filez vite chez vos libraires, ouais. C'est clair. Non, ouais, c'est un clair. Reconfinement, ça va être galère. Parce que par contre, effectivement, quand les librairies sont fermées, là, on a beau faire toute la promo qu'on veut, si on veut pas acheter les livres, bah, rien ne se passe, quoi.
Bah là, c'est un peu mon travail aussi de, tu vois, qui bosse dans le digital, d'aider, ouais. D'aider justement les libraires qui sont d'habitude que en physique à essayer de faire quelque chose sur le digital pour continuer, ouais, à vendre et avoir une activité, quoi.
Mais c'est sûr, moi, quoi, je m'en suis bien sortie parce que mon bouquin, il a pu sortir après, mais j'ai des amis qui ont sorti des livres pendant, enfin, juste avant que le confinement départ. Donc là, c'était, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand tu sais qu'un bouquin, il a quoi, 2 semaines de vie en librairie, bah, si t'es 2 semaines de vie, c'était les 2 semaines du confinement, en fait, ton livre, il est mort-né et c'est horrible parce que tu pourras pas le récupérer, quoi. T'as beau, ouais, avoir travaillé pendant un moment dessus, ben voilà, il est foutu.
Ah, c'est clair, non, mais ça doit être, moralement, ouais, ça doit être terrible.
Ouais, ça peut en flanquer un sacré coup. Hein.
Bon, du coup, toi qui as beaucoup lu pendant le confinement, est-ce que t'as une lecture ou plusieurs à nous conseiller dans ce que t'as lu dernièrement?
Eh ben, écoute, pendant le confinement, justement, dans les livres qui ont eu un destin affreux à cause du confinement, j'ai lu C'est pas ma faute de Samantha Bailly et de Anne-Fleur Multon, que j'ai trouvé génial. Et je suis dégoûtée que, justement, il n'ait pas pu rencontrer assez son public. Parce que je pense qu'il aurait pu absolument cartonner. Il est vraiment hyper beau. Sous forme de thriller un petit peu social.
C'est un bon livre avec. Ouais. Toute une trame sur les réseaux sociaux qui était très intéressante.
Il est vraiment, voilà, il a une voix, je trouve, qui est particulière et qui est propre à lui, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu également j'ai lu L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bandou, que j'ai adoré. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà, pour moi, ce sera mon roman du confinement, celui que, quand je pense à ce que j'ai lu à ce moment-là, je ne vois que lui.
Bon, je vais pas te dire il y a 10 ans parce que ça remonte un peu, mais qu'est-ce que tu dirais à la Camille qui commence à écrire? Vraiment sérieusement, qui est pleine d'ambition, etc. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de savoir que tu sais aujourd'hui avec le recul et l'expérience que t'as?
C'est une bonne question et je pense que je serais affreuse, je lui dirais rien. Je lui dirais rien.
Tu n'as rien à dire à ta toi du passé.
Non, parce que en fait, toutes les erreurs que j'ai faites à l'époque, toutes les galères que j'ai rencontrées, elles m'ont été précieuses, elles se sont transformées en d'autres choses et je pense que mon chemin aurait été différent si je les avais pas faites. Voilà, si je m'étais pas pris un gros râteau avec mon premier bouquin affreux, je pense que j'aurais pas eu la chance de rencontrer Pierre Bottero qui a profondément marqué ma vie d'écrivaine, mais pas que. Si j'avais eu plus de conseils, bah là aussi, j'aurais peut-être pas cherché, j'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés un peu par hasard. Donc en fait, je ne lui dirai rien, je la laisserai tout refaire parce qu'au final, le déroulé de carrière que j'ai eu, en fait, il me va, quoi. J'en suis très contente.
Les erreurs forment la jeunesse.
Exactement, franchement. Et puis, je n'aurais surtout pas dit calme-toi, stop l'ambition, parce qu'en fait, c'était une force énorme à l'époque. Et donc voilà, je referai tout pareil.
Eh ben écoute, franchement, c'était le mot de la fin. Je suis très contente en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et plus y affinité, car je suis clairement sortie de toutes ces questions que je m'étais préparée, parce que c'était passionnant, comme d'habitude.
Ah bah c'était passionnant pour moi aussi. Un grand merci à toi, Camille.
Ainsi se termine notre échange entre Camille, qui a été extrêmement riche pour nous deux, je crois, et qui a été une belle rencontre de mon côté. J'espère que cette discussion vous a plu, qu'elle aura pu vous toucher et que peut-être vous aurez été ému par ces ambitions adolescentes et toutes ces choses que finalement on a souvent connues en tant qu'auteur amateur au début pour ensuite devenir professionnel. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre et pas des moindres. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous et de vos projets.